Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
1 000 millions de 1 000 sabords, que se passe-t-il?
Hein? 1 000 millions de 1 000 sabords, Mario, mais que se passe-t-il au Québec?
Parce que c'était la seule éclipse solaire totale que j'avais déjà vue, mais c'est celle qui a sauvé la vie à Tintin.
Ben oui.
Sur le bûcher.
Sur le bûcher dans l'album éponyme hein, du Temple du Soleil, mais c'est arrivé pour de vrai. Il y a quelques minutes à peine, ici sur le Québec, sur Montréal, grande partie justement aussi là, de l'Est du Québec, éclipse solaire totale, tout un spectacle, hein, je pense.
Oui, vraiment. Vraiment, c'est vraiment quelque chose. Vraiment, c'était juste l'atmosphère sur la rue à Montréal. C'est comme tout le monde. Quand les derniers rayons de soleil ont disparu, tout le monde s'est mis à applaudir, à crier.
Je sais pas si c'est très québécois, ça. T'sais, on dit toujours dans les avions, tu le sais qu'il y a des Québécois, quand ça applaudit parce qu'on vient d'atterrir.
Non,
par
mais là, je pense que les gens étaient émus. T'sais, tu sentais qu'il y avait, quelque chose, il émanait quelque chose de ça, là, tu sais.
Ouais, moi, la dernière fois que j'ai entendu ça, c'est le but d'Arthuri Lekkonen, un soir de Saint-Jean en 2021.
Ouais, ouais. Moi, ou la Coupe Stanley de 93. Mais. Je comprends que les gens aujourd'hui aussi aient fait. D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient prévu voir l'éclipse, mais ce matin, mettons que t'étais pas sûr, mettons que t'étais hésitant, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu te lèves, là, le ciel était incroyable, bleu. Tu sais, je dirais à 7 heures ce matin, pas un nuage, bleu d'un bout à l'autre, le ciel est clair, il annonçait pas. D'ailleurs, on est parmi les seuls qui a pu la. Je regardais sa trajectoire ce matin avec les prévisions météo, là, du Mexique jusqu'ici. Il y avait une petite zone en Indiana qui avait pas... Mais c'était du nuage, de la pluie, des gros nuages partout, du Texas.
Oui, il y avait des endroits où les conditions étaient vraiment moins bonnes, ouais. Finalement, qu'à Montréal et ailleurs au Québec.
En fait,
là.
Tout le nord, le Vermont, le Maine et nous, là, on était vraiment la zone la plus privilégiée.
Oui, puis peut-être qu'il y a beaucoup de ces personnes-là aussi, Mario, qui ne savaient pas où c'est qu'ils s'en allaient aujourd'hui pour voir l'éclipse, mais qui ont pu y assister un peu partout. Donc, les rues de Montréal, c'était des bons endroits pour voir ça, mais le parc Jean-Drapeau, on est allé rejoindre des collègues un peu plus tôt.
Il a même fallu fermer les accès là, à un certain point par le pont Jacques-Cartier.
Oui, parce qu'évidemment, ça va avoir créé là, toutes sortes de problèmes, de congestion, entre autres sur les routes. Là, on dit que les ponts, c'était jamais depuis ce matin à Montréal.
À Québec aussi, direction La Beauce.
Ouais.
Parce que Québec n'était pas dans la zone de couverture totale, d'éclipse totale, donc il fallait descendre en Beauce.
Oui, il y avait beaucoup de gens qui s'y rendaient, donc on parlait quasiment d'une heure de plus pour se rendre là, jusqu'en Beauce à partir de Québec. C'était la même chose aussi pour se rendre en Estrie, hein, dans le coin de Bromont, là, sur l'application Waze. Déjà, là, à partir de midi, c'était presque une heure de plus sur les routes pour se rendre sur la 10, entre autres. Là. Donc, de la congestion routière un peu partout, les ponts qui étaient bloqués, on l'a dit. C'était certain que ça allait arriver, puis c'était avant l'éclipse. Là. On s'entend que pendant, il y a peut-être des gens qui ont ralenti aussi. Là. Ça, on n'a pas encore tous les rapports routiers qui nous sont parvenus à ce
temps-ci. On n'a pas rapport d'accident majeur. Là. Tu sais que c'est déjà arrivé ailleurs. On dit à cause de l'éclipse, mais pas vraiment à cause de l'éclipse. À cause des réactions humaines complètement, irrationnelles en lien avec l'éclipse. Là. Des gens qui regardent plus où ils vont ou qui s'arrêtent sur la route.
Ouais.
Et donc, qui deviennent des dangers pour des accidents.
Il n'y a pas de rapport d'accident provoqué
non,
là, par tout
pas
ça
pour l'instant.
Jusqu'ici. Par contre, il y a des gens qui se sont pointés jusqu'au Québec, des États-Unis, Mario, puis pas mal. Là, c'est ce qui était entendu, entre autres, dans le coin de Venise en Québec, là, qui se trouve juste sur les lignes américaines, dans le sud du Québec, et qui était pondé. Là, des gens du Vermont, des gens de l'État de New York, beaucoup de personnes, des Américains, donc qui traversaient la frontière parce que c'était un des endroits les plus propices pour venir voir l'éclipse. Et là, les Airbnb dans cette région-là, Mario, là, c'était à 300% d'occupation. Tous les prix étaient en haut de 1 000 $ pour être capable d'aller réserver une nuit, là, une journée pour aller regarder l'éclipse ici au Québec. Non, vraiment, là, partout sur le passage, puis il y a toutes sortes de cartes interactives qui ont été démontrées dans les dernières semaines où on voyait les réservations, là, les logements, les états, partout. tout le long là, de cette trajectoire d'éclipse qui était super occupée. Donc, c'était vraiment là, tout un événement aujourd'hui qui se déroulait, l'éclipse, qui est terminée maintenant quand même. Puis,
genre... Ce qu'on peut voir, c'est que tout s'est bien passé partout. On n'a pas aucun rapport, de même que des gens se seraient mal comportés ou auraient profité de l'éclipse, là, je sais pas, au parc Jean-Drapeau ou à l'Observatoire du Mont Mégantic. Peut-être qu'on entendra des histoires dans les prochaines heures, mais... On n'a pas de... Pour l'instant, tout semble bien aller.
Oui, et on nous annonce même à l'oreille à l'instant, là, au moment où on enregistre cet épisode, Mario, là, on est dans les dernières 10 secondes, même pas. Ça doit être fini au moment où on se parle.
Où ça disparaît.
Où c'est fini complètement,
mais
donc le soleil.
Cette heure-ci, ça commence aux îles de la Madeleine, là.
Voilà, donc il y a d'autres...
Une heure plus tard.
Ça poursuit quand même sa course autour de ça, puis tu dis...
C'est-à-dire, les îles de la Madeleine, eux, c'est moins énervant pour nous autres. Ils vont en avoir une bientôt, là.
Oui.
Dans juste 55 ans.
Ah! Ben là,
alors que pour le reste, c'est dans 80 quelques années. En 2079, il va en avoir une aux îles de la Madeleine.
Oui, on fait confiance au progrès de la science pour se rendre jusque-là.
Ouais, c'est pas fait.
Mais tu vois, il y a des gens qui ont profité de l'éclipse, Mario, quand même, aussi pour d'autres motifs. J'ai eu vent que des témoins de Jéhovah étaient actifs pour distribuer des tracts un peu partout
pendant
dans
l'éclipse.
Les villes de Montréal. Pendant l'éclipse, hein, s'il y a bien un moment où on peut tomber sous la spiritualité, avoir un. Soudainement, un nouvel éveil, mais c'est peut-être pendant
une
éclipse.
Il y a, semble-t-il, cette part, là, ce 1 ou 2 % de la population qui suit rien. Là. Mais quand on dit rien, là, rien. Pas de journaux, pas de radio, pas de télé, pas de nouvelles. Mais est-ce qu'il y a mettons, des gens. Ils parlent peut-être à des gens de leur entourage. Est-ce que ça se peut? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'avaient pas entendu parler de l'éclipse? Je me suis vraiment posé la question tantôt, puis qu'à un moment donné, ils se disent, qu'est-ce qui se passe là?
Tout le monde est énervé.
Puis là, le il fait noir. Puis qu'est-ce qui arrive?
Ils ont dû faire le saut sur un moyen temps.
Ouais.
Aujourd'hui, on va le
mais il faut être décroché. Donc, si tu n'as rien entendu parler de l'éclipse rendu à cet après-midi, t'es pas bien informé, mettons. T'es pas mal décroché.
Je pense que le terme est fait.
Ouais.
Tout savoir en 24 minutes.
Aujourd'hui, c'était une éclipse solaire, ce qui causait une éclipse médiatique. Puis dans ce temps-là, mais c'est le temps de faire des annonces qui passent un peu plus sous le radar quand on est en politique. Et c'était le cas aujourd'hui, dans cette longue vaste, longue liste qu'accomplit le Justin Trudeau de dépenses préélectorales depuis un bon moment. Bien, aujourd'hui, c'était le tour de parler du budget défense qui va s'en venir et de l'orientation de la défense canadienne dans les prochaines années. Et la mauvaise nouvelle, parce qu'on peut le dire comme ça, est tombée aujourd'hui. Il n'y aura pas de 2 % du PIB d'investi dans la défense canadienne comme l'est demandé, comme on l'a promis aussi à l'OTAN, hein, cette alliance-là de laquelle on fait partie.
Mais on augmente un petit peu notre pourcentage. On s'en va. Sur 20 ans, c'est quand même loin. Ça nous mène jusqu'en 2044. Mais parce que les investissements qui ont été annoncés aujourd'hui, c'est pour 20 ans.
Oui. Puis là, on parle là, d'un 8,1 milliards de dollars sur 5 ans.
73 sur 20 ans. Puis on dit qu'avec ça, je pense qu'on là, on est à 1,34. Là, on montre 1,7.
1,76, là. C'est censé être là où on arrive.
On s'approche du... Mais quand même, en 2044, là.
Oui, puis on s'approche. On n'y arrive pas complètement. Ce qui ne va pas aider la réputation du Canada, on s'entend là, comme étant le pic-assiette de l'OTAN, tel que ça a été décrit par certains généraux américains. C'est un plan qui s'intitule « Notre Nord, fort et libre », puis dans lequel, oui, on met de l'argent, oui, on explique qu'on va faire des efforts, par exemple, de recrutement, ce qui était quelque chose qui manquait cruellement à nos forces armées canadiennes, là, juste des bras, des effectifs militaires, pas moins dans le cas au-dessus de 10 000 personnes à peu près. Mais pour le reste, c'est flou. C'est flou. Dans le texte, on parle, entre autres, là, on dit... OK, on étudie les possibilités de renouvellement d'expansion de notre flotte de sous-marins. On étudie les possibilités. Même chose pour les blindés. Nous étudions les possibilités. Puis après ça, on repensera le modèle d'acquérir les équipements militaires. Mais comment le faire? Il n'y a rien de décrit.
Il reste du flou. Mais c'est quand même... je pense que c'est quand même quelque chose qui va être bien reçu dans les forces qui se sentent abandonnées et qui sentent qu'on leur fournit pas les équipements. Je sais qu'il y a le processus d'acquisition. Là. Tu peux avoir les budgets débloqués. Après ça, est-ce que tu es capable de faire les achats et de gérer? Parce que le processus, c'est pas... tout ce qui est armement, tout ce qui est équipement militaire, t'achètes pas ça comme au Dolorama sur une tablette. Là.
Non.
Il faut que tu aies des processus de commande sur une couple d'années. Puis... Pour commander des grosses affaires de même, il faut que tu saches ce que tu veux.
Oui. Pis...
ça, des fois, ça nous fait défaut.
Et il faut pas que tu annules en plein milieu du processus. Hein?
Fait nous, on sait pas ce qu'on veut. Ça nous prend du temps à se décider. On finit par commander. Mais là, quand on dirait qu'on commande toujours en fin de mandat, là, on est battu aux élections par un gouvernement qui a promis d'annuler ces contrats-là puis de revoir le contrat des hélicoptères, des frégates. On l'a fait. Fait que là, on annule le contrat. Ça a été ça l'histoire du Canada, là. L'histoire militaire du Canada en matière de procéder aux achats, de faire, tu sais, de s'approvisionner là, en équipement majeur. C'est vraiment là, une comédie, un vaudeville.
Oui, puis c'est ce qui fait qu'on est avec, là, je rappelle, c'est un rapport qui a été publié en septembre dernier là, par les Forces armées canadiennes qui explique qu'on a 61% de nos effectifs, là, autant matériels que humains, qui sont prêts à intervenir au combat demain matin. Un peu plus que la moitié. Le reste, c'est des équipements désuets, des gens qui sont pas préparés.
Ils sont brisés, ils sont en attente de réparation. Exactement. Il manque des pièces.
Puis là, au rythme où on commande des avions de chasse, par exemple, les F-35, mais là, on risque d'y recevoir un moment où ce ne seront même plus des avions qui vont être performants.
Ça, c'est un bel exemple là, du processus d'acquisition douteux. Là. C'est que là, on avait dit, ah, les conservateurs ont acheté ces avions-là, c'est bien trop cher, ça n'a pas de bon sens. Non, on a fait campagne électorale pour l'annulation du contrat. On se fait élire, on annule le contrat.
Une couple d'années plus tard.
Ben, une couple d'années, genre 6 ans perdus plus tard, on redonne, on choisit les. On a analysé comme il faut, là, on a tout analysé nos options.
Puis il y avait raison.
On rappelle, on rachète le même avion. Mais là, tu comprends, 6 ans après, l'inflation, tu sais, le prix a augmenté, fait qu'on rachète les mêmes avions, mais je me souviens plus quel pourcentage plus cher. Tu dis, waouh!
Ouais.
C'est tout ça pendant ce temps-là, nos militaires n'ont pas l'équipement voulu. Là.
Pendant ce temps-là, on n'a pas l'équipement voulu pour nos militaires, on n'a pas l'équipement voulu pour l'envoyer en Ukraine non plus. Je rappelle, c'est des sources au sein là, de l'état-major canadien qui expliquaient qu'au rythme où des munitions se dépensent sur le front en Ukraine, on se comprend, là, qui est à peu près l'endroit où on peut le plus observer, là, le meilleur labo, si on veut, pour des forces militaires modernes, en 2-3 jours, on n'aurait plus de munitions au Canada. On pourrait pas durer 3 jours de guerre. Je veux juste
pense qu'on n'est pas prêt. Là.
On n'est pas prêt du tout, sincèrement. Puis c'est quelque chose qui démontre encore une fois que là, non seulement on ne respecte pas les promesses, mais on ne sait pas trop comment on va augmenter les équipements. Bref, ça tombait peut-être bien pendant une éclipse, Marie.
Actualité.
Sinon, dans les autres nouvelles, un débat qui circule beaucoup là, depuis, entre autres, que le Parti québécois a décidé de le remettre de l'avant assez fortement, merci. C'est le temps d'écran chez les enfants. Et aujourd'hui, le ministre responsable de la santé mentale, Lionel Carman, et des services sociaux, il est allé une déclaration, là, lui qui se trouvait au symposium international Métavers et Santé, et a expliqué que le gouvernement allait entamer là, tout prochainement une réflexion sur la stratégie québécoise de l'utilisation des écrans chez les jeunes. Faut comprendre, c'est la deuxième stratégie, parce qu'on avait déjà agi de ce côté-là, commencé à avoir une réflexion. Mais c'est pas un dossier qui est simple. Il y a des grands dossiers comme ceux-là, comme l'intelligence artificielle, comment on va gérer tout ça, l'itinérance, comment on réussit à gérer tout ça, le temps d'écran chez les jeunes. Mon Dieu, quelles sont les solutions pour être capable de le diminuer? Parce qu'on a des résultats probants avec des études.
Mais parce qu'on pousse le gouvernement à légiférer, mais légiférer...
Comment?
Ben c'est ça, légiférer, tu votes une loi, mais la loi, tu vas pas interdire aux jeunes d'utiliser une tablette. Donc, tu pourrais... Tu vas te mettre dans une loi qu'il ne faut pas l'utiliser à l'école, mais là, il va y avoir des exceptions. Tu ne serais pas mieux de mettre en place des politiques ou des directives au centre de services scolaires, mais c'est pas clair pour moi qu'est-ce que tu mettrais dans une loi, là, tu sais, pour. Ou bien que tu fais une loi d'application générale, comme ils ont déjà fait dans le passé, loi pour éliminer la pauvreté, mais dans le fond, c'est une loi qui n'est pas une loi. Là, qui est une, si tu votes des séries de vœux pieux. Mais j'ai pas de. Moi, aujourd'hui, il y a un symposium sur la question. Je pense qu'on est encore à l'étape de déterminer qu'est-ce qu'il faut faire, puis de se demander exactement c'est quoi les bonnes choses à faire. Oui, on peut donner des directives de base, dire demander aux écoles bon, moins d'écrans, mais comment on va gérer ça? Comment, tu sais, je veux dire, les jeunes, ils ont tout un sel. Comment tu vas contrôler ça? Comment tu vas voter une loi qui, par miracle, va faire disparaître un problème planétaire? Puis ici, au Québec, on le vivra plus. J'ai mes doutes, là.
Tout savoir en 24 minutes.
Nouvelle qui parvient de ton coin de pays,
oui.
Mario, c'est ma famille également, Rivière-du-Loup, une nouvelle qu'on va traiter là, d'ailleurs dans les prochaines minutes, les prochains segments de cet épisode, restez avec nous, qui concerne les rues de Rivière-du-Loup. Parce que là, dans le bas du fleuve, semble-t-il qu'il y a des parents qui sont en beau maudit parce que sur une rue, ils ont reçu un avis comme quoi les jeunes n'ont pas le droit de jouer dans la rue. particulièrement de jouer au hockey dans la rue sous peine d'amende. Puis qui est venu ramener un peu cette espèce de problématique-là qu'on avait déjà vu par le passé.
Ouais, on avait vu ça dans la région de Montréal, on avait vu ça en banlieue. Puis à chaque fois, c'est pareil, là, des parents choqués, quelqu'un portait plainte, là, la police, la ville qui dit, ben là, il y a un règlement, on va le faire appliquer. Mais finalement, qui recule quasiment à chaque fois, les autorités finissent par reculer en disant, ben là, on veut pas décourager les jeunes de faire de l'activité physique. Là, en plus, c'est un parent prof d'éducation physique.
Exactement, qui devient un peu le porte-parole, si on veut, de ce regroupement de parents qui sera avec nous, d'ailleurs, dans quelques instants, et qui explique, là, c'est bien beau, là, justement, on parlait, il y a quoi, 2 secondes de temps d'écran de jeunes qui sont trop devant l'ordi, trop devant leur
cell. On veut qu'ils soient plus actifs, on veut qu'ils jouent physiquement.
On veut qu'ils jouent physiquement, pas dans la rue. Ouais. C'est sûr que c'est un peu contre-productif, là. Donc, il va y avoir une séance du conseil de ville aussi de Rivière-du-Loup à laquelle il y a plusieurs parents qui ont promis, là, d'assister. Ça devient toujours une nouvelle, si on veut, là, qui refait le tour des manchettes. Bien hâte de voir.
Mais à beaucoup d'endroits, écoute, je vais pas m'avancer pour Rivière-du-Loup. Peut-être qu'il y a des circonstances qu'on va comprendre, mais à beaucoup d'endroits où ils ont fait ça, ils ont reculé, là.
Oui. La grogne, elle arrive vite.
Ils ont fini par reculer, là, les villes.
Est-ce que ce sera le cas, là? À suivre.
À suivre, ouais.
Économie.
On continue d'analyser ce palmarès du magazine Forbes aux États-Unis, qui est toujours très suivi, parce que c'est un peu la curiosité qu'on a tous de savoir les riches et les puissants, combien ils ont de cash exactement. Et là, c'est Sam Altman dont la fortune est analysée en ce moment. Sam Altman, c'est ce patron de la jeune entreprise OpenAI d'intelligence artificielle qui est derrière, entre autres, ChatGPT, et qui est milliardaire, selon cette liste-là. Ce qui est plus curieux à regarder au travers de tout ça, c'est que M. Altman a toujours juré qu'il n'y avait pas de part lui-même dans OpenAI. Il en est le patron, mais il n'y a pas d'action dedans. Donc, d'où vient sa fortune? C'est ça qui est intéressant là, d'analyser.
Parce que pour devenir milliardaire en étant salarié, il faut que tu aies un fichu salaire.
Oui.
T'sais, si tu as des actions d'une compagnie puis que les actions valaient 5$ chaque, puis tout à coup, ils en valent 200$, tu comprends que tu as une prise de valeur. Puis la plupart des gens, c'est de même qu'ils deviennent très, très riches. C'est qu'ils ont des valeurs d'une compagnie. Puis la compagnie, si la compagnie faisait faillite, les actions vaudraient zéro. Mais si les actions de 5 piastres valent 10, valent 20, valent 40, valent, parce que la compagnie cumule les succès, puis grossit. C'est de même que tu te mets riche. Mais là, lui, est-ce qu'il est simple salarié?
Ouais, surtout à 38 ans, Mario, là, parce qu'il n'est pas très vieux. C'est sûr que c'est pas juste son salaire qui fait tout ça. Il n'y a pas de part dans OpenAI, l'entreprise en elle-même, mais il y en a dans plein d'autres choses. C'est comme ça qu'on apprend aussi, entre autres, mais que lui, ses premiers millions, il les a fait en 2012. En 2005, à 19 ans, il a cofondé une entreprise qui s'appelle Looped, qui est un réseau social basé sur la géolocalisation. Il avait vendu tout ça, donc, en 2012. Fait des premiers millions de dollars. Puis là, c'est de l'argent qu'il y a dans le réseau social Reddit, entre autres. Aussi, on dit qu'il serait à peu près propriétaire de 8% de la valorisation de tout ça. C'est comme
Reddit
600 millions.
Qui est rentré en bourse le mois passé. Là.
Ouais, c'est comme 600 millions de dollars. Puis là, tu ajoutes à ça d'autres parts au travers de tout ça sur l'application de paiement Stripes, qui est évaluée avant son entrée en bourse à 65 milliards de dollars. Puis après ça, il a placé de l'argent aussi dans Retro Bioscience, a mis ça dans une start-up pour la fusion nucléaire qui s'appelle Helion. Bref, le secret de M. Altman, c'est exactement comme tu l'as décrit, c'est d'avoir investi sur à peu près n'importe quoi, là, sur des sociétés, des startups qui continuent à faire de l'argent.
Mais je pense qu'il y avait des bons tuyaux pour investir dans des bons startups. Là.
Je pense que
ça se peut.
Avec de l'argent, tu peux faire plus d'argent.
Ou bien qu'il demandait à ChatGPT dans quoi j'investis.
C'est peut-être ça le secret.
C'est peut-être ça. Là.
Le monde.
Évidemment, c'est impossible de parler de l'éclipse sans parler de Donald Trump. Ça peut être bizarre à dire comme ça, Mario, mais aux États-Unis, c'est en équipe de campagne, on saisit l'opportunité marketing toute la journée. Je tenais à le dire, des images de la tête de Donald Trump au lieu de la lune devant le soleil qui s'en vient camoufler tout ça. Ça a circulé allègrement. Mais faut pas que ça détourne l'attention quand même d'une déclaration assez importante, merci, de campagne.
Ouais, mais c'est plus qu'une déclaration, c'est une prise de position attendue dans un dossier, celui de l'avortement, où on savait qu'il pourrait pas faire plaisir à tout le monde. Là.
Non, effectivement, parce que l'avortement, c'est un sujet excessivement chaud. Ça fait déjà des années que M. Trump se vante publiquement d'avoir été celui qui a fait en sorte qu'on a renversé la décision là. Roe versus Wade aux États-Unis, donc qui a permis d'invalider le droit à l'avortement dans l'ensemble des États aux États-Unis. Mais c'est que c'est une décision, au final, quand on se rend sur le terrain de la campagne électorale, qui n'est pas si populaire que ça auprès des électeurs, même républicains. Il y a beaucoup de gens dans l'opinion publique, mais qui étaient pour l'avortement là, au travers de tout ça. Puis c'est là que les républicains commencent à perdre des plumes là, avant la campagne électorale qui devrait s'amorcer contre Joe Biden.
Puis dans son aile la plus religieuse, conservatrice sur le plan social, moral, on lui demandait, parce que eux, ils sont outrés là, que chaque État décide, parce qu'eux considèrent qu'il y a certains États américains qui vivent avec un péché autorisé. Donc, voulaient une espèce de directive nationale que si Trump est élu, à partir de la Maison-Blanche, ils prennent une position, ils développent une politique d'interdiction de l'avortement dans tout le pays.
Oui, puis après avoir soufflé le chaud et le froid, d'avoir dit à sa manière, hein, un peu n'importe quoi, mais M. Trump aujourd'hui a annoncé là, dans une vidéo qu'il laisserait, là, s'il redevient président, laisserait aux États le droit de légiférer
donc,
État par État.
Donc le statu quo essentiellement.
Oui, exactement. Là. Garder un peu le statu quo, par contre, ben, on a profité pour glisser un mensonge éhonté au travers de tout ça, parce que c'est remis à dire que les démocrates sont en faveur là, de l'avortement jusqu'à la naissance, puis au huitième mois de continuer à avorter des enfants. Ça, et même...
Il y a une madame, là, parce qu'on a quand même des supporters de Trump au Québec, il y a une madame qui me disait que ce que les démocrates veulent, c'est tuer les enfants là, naissants dans les pouponnières.
C'est exactement ce qu'il a dit aujourd'hui. Il a dit, pour les démocrates, ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse exécuter des enfants après leur naissance. Là. Comme le peloton d'exécution d'enfants après la naissance. On se comprend-tu que c'est pas ça l'enjeu de l'avortement en ce moment? Mais il l'a quand même mentionné, donc une belle prise d'opposition pour sa campagne qui se complétait par un mensonge.
Sauf que dans l'aile religieuse de son parti, ils sont déçus. Là.
Oui.
Eux voulaient pas qu'on laisse ça à chaque État. Ils voulaient vraiment que Trump prenne un engagement d'une intervention mur à mur sur l'avortement, ce qu'il refuse de faire. Donc, dans le fond, ça va être un peu le statu quo. Là. Chaque État, ce qui est déjà le cas, chaque État gère ça à sa façon.
Tout savoir en 24 minutes.
Je termine, Mario, avec une autre histoire de problème d'aviation.
Oui, mais toute une.
Oui, parce que là...
T'as vu les images?
Oui. On dit toute une, faut dire. En image, ça paraît très mal. Heureusement, pas de morts, pas de blessés. Tout le monde va bien dans cette échauffourée-là. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit pépin mécanique sur un avion, là, une couple d'années, personne ne regardait ça. Maintenant, les yeux se rivent tout de suite vers quelle marque, c'est un avion Boeing. C'est un Boeing, encore une fois, qui a eu un pépin technique, haute tuile qui tombe sur la tête de l'entreprise, alors qu'un Boeing 737-800 de la compagnie américaine Southwest là, est parti dimanche. Et au décollage, là, à l'aéroport de Denver, il y a un morceau, un capot de son moteur qui s'est détaché, là, vraiment comme une grosse pièce de tôle, puis qui est venu comme frapper le reste de l'aile. Là, presque comme si, comme quand t'as un morceau de ton auto là, qui bat au vent, puis ça fait du bruit, mais sur un avion, c'est pas mal plus inquiétant.
Oui.
Et là,
puis
ben,
ça a décroché ce morceau-là, puis là, c'est allé frapper sur l'avion.
Ouais, heureusement, là, il retourné atterrir.
Mais parce que la fois, il était en train de décoller. Au moment où c'est arrivé, il était comme en train de décoller. Il était trop tard pour freiner, donc ils ont complété le décollage.
Puis sont venus atterrir immédiatement.
Ils sont venus atterrir.
Voilà, sans encombre, pas de blessés, pas de morts, mais évidemment, c'est une nouvelle enquête de l'Agence fédérale d'aviation civile aux États-Unis qui va encore une fois enquêter sur Boeing. Puis ça, ça risque pas d'être bon. Là. Même si on changeait les patrons, Mario, il est fort à parier que les troubles sont pas terminés pour Boeing.
Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.